Philippe Jarouski, vous n'avez découvert le chant qu'à vos 18 ans. Avant cela, vous pratiquiez surtout le violon. Et aujourd'hui, il n'y a presque plus aucune salle de concert que vous ne connaissiez pas. Êtes-vous vous-même surpris ou épaté par ce parcours?
Oui. Moi, je suis toujours émerveillé de pouvoir faire ce métier. Je ne pensais pas que j'allais parcourir toutes les scènes. Là, je vais partir bientôt pour chanter à Buenos Aires, à Sao Paulo. Enfin, c'est assez magique. C'est ça qui est très beau avec la musique classique, c'est que c'est un langage assez universel et qui se joue partout dans le monde.
Vous avez les yeux qui brillent quand vous évoquez ce parcours si particulier. Charlotte Latour, vous suivez la carrière de Philippe Jarouski depuis plusieurs années. Ce nouvel album consacré à Vivaldi est un véritable coup de cœur pour vous.
Oui, parce que Vivaldi, il vous va si bien, Philippe Jarouski. C'est comme s'il avait écrit juste pour vous. Vous dites d'ailleurs souvent qu'il vous a porté chance.
Ah oui, j'ai énormément chanté du Vivaldi. Je l'avais un petit peu délaissé ces dernières années pour des compositeurs un petit peu moins connus. Et il y a une grande partie de mon public qui me disait « Quand est-ce que vous rechantez Vivaldi ?» Et en fait, c'est vrai que j'avais encore peu abordé sa musique religieuse et je m'étais dit, j'avais fait beaucoup les airs d'opéra et voilà. Et c'était pas mal. Moi, je trouvais ça très intéressant de revenir aussi après une petite pause comme ça de quelques années sur un compositeur, que tout le monde dit qu'il me va bien. Alors moi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai un très très bon feeling avec lui. D'abord, c'est très très bien écrit pour la voix, évidemment. Et on a toujours dit que Vivaldi était un génie un peu facile parfois, mais quand on écoute les mélodies, quand on écoute particulièrement ses œuvres, ses motets, il y a une beauté, il y a un vrai génie vocal, un vrai génie du texte qui fait que ça s'écoute tout seul.
L'histoire des airs que vous interprétez sur l'album est jolie. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Elle nous emmène à Venise, hein?
Oui. C'est vrai que il y a une partie de la musique dans ce disque qui est écrite pour Venise, mais pas toute. Mais par exemple, pourquoi cette grille? Pourquoi je suis derrière une grille sur la couverture? C'est parce que effectivement, contrairement à beaucoup de mes albums dédiés au castrat, il y a une grande partie du répertoire de ce disque qui aura été créé par des jeunes filles, des orphelines, et on faisait chanter. C'était des vrais virtuoses. D'ailleurs, Vivaldi les formait dès leur plus jeune âge, et on les faisait chanter derrière des grilles pour que les auditeurs ne voient pas leur beauté.
Et alors, le mythe était justement entretenu par le fait qu'elles étaient cachées, littéralement. On avait tous les notables de la ville qui venaient en espérant apercevoir leur
future épouse. Une cheville, comme on disait à l'époque. Et c'est vrai que c'est très mystérieux. Ce qui était très incroyable, c'est que ces jeunes filles avaient une réputation dans l'Europe entière. C'était des vraies virtuoses au violon, au chant. Ce qui est un vrai mystère aussi, c'est que Vivaldi composait des parties de chœur, c'est-à-dire avec des voix de aiguë, mais aussi des voix de ténor et des voix de basse. Et on sait que c'était aussi les jeunes filles qui chantaient les voix de basse. Donc il y avait des jeunes filles et qui chantaient des voix très graves aussi. Donc c'était très étonnant.
Le fait d'avoir une voix aiguë de contre-ténor a-t-il rendu plus facile l'adaptation de ces airs qui étaient écrits, vous venez de le rappeler, à l'origine pour des jeunes filles?
Oui, alors pas toutes. Par exemple, le fameux Stabat Mater, on pense que c'était quand même écrit pour un castrat. Ce qui est très beau, c'est qu'il y a un peu des climats différents. Il y a des airs religieux qui sont écrits avec beaucoup de sobriété, notamment ce Stabat Mater, qui la première grande œuvre religieuse que Vivaldi écrit, et c'est un coup de maître. Et puis il y a des motets comme le Longe Mala qui sont des motets très virtuoses et qui se rapprochent plus du monde de l'opéra, on va dire.
On va l'écouter justement, ce Stabat Mater. La question du travestissement sur scène, quand on a une voix d'homme mais une voix aiguë, elle se pose forcément. Ça, c'est quelque chose qui vous plaît de passer à un moment d'un rôle masculin à un rôle féminin? Comme ça, c'est vraiment un jeu d'acteur, quoi.
Alors, curieusement, j'ai jamais fait aucun rôle féminin sur scène. C'est-à-dire que il y a des contre-ténors qui peuvent faire des rôles féminins, mais c'est vrai que ce qui a été l'utilité finalement du contre-ténor ces dernières années, c'est justement au contraire d'interpréter des rôles masculins qui étaient jusque-là interprétés par des femmes. Et ça a intéressé à un moment beaucoup de metteurs en scène. on va dire, d'apporter une sorte de réalisme aux mises en scène d'opéra et de décider d'engager des hommes dans des rôles d'hommes avec des voix aiguës. Alors ça, c'est évidemment la petite originalité. J'espère que les auditeurs ne sont pas perdus dans ces explications un peu complexes, mais ça a fait en partie le succès de cette voix de contre-ténor, c'est de redonner un petit peu de réalisme à certaines productions d'opéra où on n'avait plus que des femmes au final.
Alors pour respecter la partition d'origine, je crois que vous avez été enregistré dans une église, mais pas à la Pietà à Venise, justement. Pourtant, elle existe encore.
Oui, alors malheureusement, la Pietà de Vivaldi n'existe pas. Elle a été reconstruite. Et les seuls vestiges, alors c'est assez amusant, les seuls vestiges de la Pietà originelle, sont juste à côté. Et c'est devenu, on a encore deux colonnes là où travaille Vivaldi, et c'est devenu un bar. Alors je ne sais pas ce que Vivaldi en penserait. Je pense qu'il serait très heureux.
Le son n'aurait pas été le même, c'est sûr.
Mais c'est très important en tout cas d'enregistrer ce genre de musique, ce type de musique dans une église.
Un extrait du Gloria. Alors tous les chanteurs ont
là,
leur
on est
remède.
À Venise, là.
Là on est en plein Venise.
On est sur
sûr.
Une gondole et on se trouve à s'imaginer dans les canaux de Venise.
Et sous le soleil. Tous les chanteurs ont leur remède pour préserver leur voix. Moi récemment je me suis retrouvée dans une loge d'une chanteuse lyrique où il y avait des huiles essentielles, des sprays pour la gorge, des sirops. C'est votre truc ça aussi, vous fonctionnez comme ça?
Non, moi j'ai une bouteille de vodka, j'ai un cendrier. Non. Oui, on a des petits trucs. Enfin, moi, j'ai pas trop de petits remèdes comme ça, des petits remèdes de grand-mère. Par contre, je dors beaucoup. J'ai la chance de pouvoir dormir beaucoup. J'évite effectivement de parler trop, de chanter trop avant un concert. Finalement, le chanteur, contrairement à un pianiste ou un violoniste, il est un peu feignant. C'est-à-dire que son travail avant un concert, c'est de ne rien faire. Alors ça me plaît pas mal.
Donc votre façon de soigner votre voix, c'est de beaucoup dormir.
Oui, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment une sécurité, comme
c'est
je dis
quoi,
toujours.
Des nuits de 12 heures enfin...
Ah, ça peut être une nuit de 12 heures.
Ça nous fait rêver, nous.
Oui, mais la chose effectivement qui est complexe, c'est qu'évidemment, un chanteur d'opéra, on chante à 99% du temps sans micro. Donc d'une petite méforme, ça s'entend tout de suite dans une salle et... Ça peut être compliqué.
Philippe Jarouski est venu nous présenter Pietà, son nouvel album consacré à la musique sacrée de Vivaldi.